Dans cette vidéo, nous allons voir le lien majeur que l'on peut établir entre système économique et ville. On verra que la ville concentre l'activité économique et que de ce fait, elle polarise le territoire environnant. Chaque ville apparaît dans un contexte particulier, dans un site particulier, et ainsi chaque histoire urbaine est spécifique. Mais lorsque l'on prend un peu de recul, comme l'a fait par exemple Paul Béroc, dans ses travaux, on peut voir l'importance fondamentale de l'économie dans l'apparition des villes. Importance fondamentale puisque l'apparition des villes est rendue possible par un dégagement préalable de richesses, une accumulation préalable de richesses, qui prend la forme, par exemple, lors de l'apparition des premières villes, de surplus agricoles. Le fait de pouvoir dégager des surplus agricoles permet à une partie de la population de ne plus travailler dans les champs et ainsi permet à ces populations de s'agglomérer dans l'espace et de développer d'autres types d'activités économiques. Développement urbain et développement économique sont ainsi, dans l'histoire longue mais aussi dans l'histoire contemporaine, généralement concomitants, même si ce lien n'est pas universel. Ainsi, la fonction économique de la ville est fondamentale. La ville, qui possède différents types de fonctions, qui lui donnent une certaine puissance, un certain pouvoir sur d'autres villes ou sur des territoires environnants, cette fonction économique, elle prend la forme d'un lieu marché central et les villes possèdent donc une certaine centralité. Et dans cette centralité vont s'échanger des biens et des services. Et c'est dans ce lieu que vont se rencontrer cette offre et cette demande de services, offre de la part des producteurs, demande de la part de consommateurs potentiels. Et donc cette centralité va largement expliquer l'organisation territoriale du fait de ces services rendus à la population. La concentration des activités économiques, on peut l'observer entre 1975 et 2012 ici dans le cas français, au niveau des communes françaises. Et pour essayer de voir à quel point les activités économiques sont concentrées dans l'espace, on peut mobiliser ici l'indice de Gini, qui, si vous le savez peut-être, varie entre 0 et 1, la valeur de 1 indiquant une concentration extrême. Ici, on observe donc cet indice de Gini qui correspond soit à la population, soit à l'emploi. Et ce que l'on peut observer dans un premier temps à propos de la population, c'est que cet indice de Gini a tendance à diminuer lors de ces 35 années, ce qui pourrait être le signe de la périurbanisation, ce desserrement des zones résidentielles du centre des villes vers la périphérie. En parallèle, on observe une concentration des emplois dans un plus faible nombre de communes, une augmentation de cet indice de Gini pour les emplois au cours de cette période. Et ainsi, l'on observe à la fois des forces centrifuges et des forces centripètes qui poussent à la concentration ou au desserrement. Et en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne les activités économiques, ce sont les forces d'agglomération qui sont ici plus importantes que les forces qui pousseraient à un étalement, à un desserrement de ces activités économiques. Nous ne raisonnons pas ici à l'échelle des villes, mais à l'échelle des communes. Et ainsi, je vous propose de passer à l'échelle des villes en nous appuyant dans un premier temps sur les 38 plus grandes villes de l'Union européenne. Si elles concentrent 25% de la population, elles concentrent encore plus d'emplois et un PIB encore plus important. On a donc une concentration dans un espace très restreint d'une population, mais aussi d'activités économiques présentes en proportion encore plus importante que la population. Plutôt que de se focaliser simplement sur les plus grandes villes européennes, on peut regarder les différents échelons de la hiérarchie urbaine en considérant les plus grandes aires urbaines, les aires urbaines moyennes et les petites aires urbaines dans cette augmentation qui est représentée sur ce graphique, augmentation du nombre d'emplois toujours au cours de la période 1975-2012. En prenant une base 100 en 1975, on peut observer dans un premier temps pour l'ensemble de la France métropolitaine cette augmentation qui est de 25% au cours de la période. Mais si l'on regarde bien les différences entre grandes aires, aires moyennes et petites aires, on remarquera que cette augmentation est plus importante dans les grandes aires que dans les aires moyennes et les petites aires. Et donc, on a une concentration ici de l'activité économique vers des villes de plus grande taille. On peut aussi regarder au sein de chacune de ces classifications en grande, moyenne ou petite aire urbaine, les différences entre les pôles urbains, c'est-à-dire le cœur des villes, et les couronnes périurbaines, les couronnes de ces pôles urbains, en différenciant, par exemple, pour les aires urbaines moyennes, le violet du violet clair. Alors, nous avons ici la courbe qui correspond au pôle urbain moyen, et ici, la courbe qui correspond aux couronnes de ces pôles moyens. Et ce que l'on peut remarquer ici, c'est que l'activité économique et que les emplois associés à cette activité économique croissent plus largement dans les pôles moyens que dans les couronnes de ces pôles moyens. Et donc on a une concentration dans les plus grandes villes, mais aussi une concentration au cœur des villes au cours de cette période. Une explication de cette double concentration vers les plus grandes villes, mais aussi au cœur des villes, ce sont les bénéfices que tirent les acteurs économiques de l'agglomération dans l'espace. Des économies d'échelle, dans un premier temps, qui correspondent à des économies internes au sein même de l'organisation économique, et des externalités, c'est-à-dire les économies d'agglomération qui sont composées d'économies de localisation et d'urbanisation, qui sont des externalités qui sont liées soit à la spécialisation économique de l'environnement, par exemple une organisation économique de l'aéronautique aura tendance à se localiser dans un environnement déjà spécialisé dans ce domaine pour bénéficier d'une main-d'œuvre déjà qualifiée, par exemple. Et nous avons également donc ces économies d'urbanisation qui correspondent au partage des coûts liés à des infrastructures qui seront donc partagées par un plus grand nombre d'acteurs économiques. La résultante de ces bénéfices à l'agglomération sont la polarisation par les villes des territoires environnants, les villes, que ce soit ici des aires urbaines ou des pôles de services, polarisent une partie du territoire. De l'ensemble de l'espace régional breton. Prenons un exemple un petit peu plus concret. Ici, dans les travaux précurseurs de Brian Berry en 1967, traduit en français en 71, nous avons quatre niveaux de services plus ou moins rares, des églises jusqu'aux hôpitaux. Et ces quatre niveaux de services nous permettent d'observer différents niveaux de polarisation par les villes selon le type de service auquel on s'intéresse. Si l'on considère les églises, on a une couverture territoriale très importante par ces différentes églises, et donc une polarisation qui se fait à une très faible portée pour ce qui est de ce premier service qui est relativement courant. Alors que, à l'inverse, pour ce qui est des hôpitaux, nous n'avons que quatre villes qui proposent ce service, et donc on a une polarisation qui se fait à portée bien plus importante, et nous avons donc ici quatre villes qui polarisent l'ensemble du territoire. Ce que l'on peut remarquer en plus sur ce document, c'est que les quatre villes qui présentent des hôpitaux présentent également les niveaux de services inférieurs, ce qui nous permettra par la suite d'aborder la théorie des lieux centraux de Cristallère sur laquelle on reviendra. Nous avons donc différents niveaux de services selon leur rareté et selon des seuils urbains d'apparition de ces activités. Ce que l'on peut observer sur ce document, qui concerne trois niveaux de services différents dans le même domaine, c'est-à-dire l'enseignement. Donc, nous avons ici des écoles primaires, maternelles et des collèges. Ce que l'on peut observer, c'est que le collège est plus rare et ainsi son seuil d'apparition est décalé sur l'abscisse. Il faut considérer des villes de 2000 habitants environ pour que des communes de 2000 habitants environ pour atteindre 50% de communes équipées, alors que pour atteindre ces mêmes 50% pour les écoles primaires, on est plutôt autour de 200 habitants. Pour résumer tout ceci, on peut mobiliser deux modèles. Précurseurs en géographie et en géographie économique, même s'ils sont largement critiqués depuis, mais on peut mobiliser ici dans un premier temps le modèle de Fontenelle qui explique l'organisation des activités agricoles autour d'un marché. Nous avons ici une ville V et nous allons faire apparaître sur ce graphique le bénéfice que l'on peut tirer d'une production agricole selon la distance à la ville, selon l'endroit où on va établir cette production agricole. Premier exemple ici avec le maraîchage. Nous avons une certaine valeur monétaire, c'est-à-dire le bénéfice que l'on va tirer de cette production, qui va largement dépendre du prix de vente au marché de la ville V et du coût de transport qui va dépendre de la distance à cette ville V. Et donc nous observons cette première pente qui correspond au bénéfice potentiel que l'on peut tirer d'une production de maraîchage. Pour ce qui est de la céréaliculture ou de l'élevage, on peut tracer des courbes différentes qui dépendront d'un prix de vente différent à la ville et qui dépendront d'un coût de transport différent. Le maraîchage étant plus fragile que les productions de céréales. La production de céréales implique un coût de transport par tonne qui est plus faible que pour le maraîchage, par exemple. Et donc la traduction spatiale de tout ceci, ce sont des auréoles concentriques qui apparaissent autour de notre ville V, autour de notre marché, étant donné que à chaque distance de la ville, nous aurons une de ces trois productions qui sera la plus bénéfique, et on se place dans l'hypothèse que le producteur choisira toujours la production la plus rentable pour lui. On obtient donc une organisation en auréoles concentriques autour de cette ville, et ces auréoles concentriques peuvent être très largement déformées par le milieu si l'on n'est plus dans un postulat d'une plaine isotrope, mais que l'on considère dans le deuxième cas un moyen de transport qui permettrait de relier plus facilement certaines zones que d'autres. Et ici, on a le modèle modifié avec une rivière ici, une rivière navigable qui permet de relier plus facilement certains lieux que d'autres lieux. Autre modèle que nous pouvons mobiliser ici, la théorie des lieux centraux de Cristallère, qui tente de théoriser la dimension, l'espacement et l'organisation hiérarchisée des réseaux de villes à partir d'observations réalisées dans le sud de l'Allemagne. Et ce à quoi l'on aboutit est une hiérarchie emboîtée de différents niveaux de villes qui présentent des services de rareté plus ou moins importantes. Et lorsque l'on se place en plaine homogène, on obtient des aires de marché qui sont ici hexagonales. Nous avons une ville de rang 1 ici qui présente une aire d'influence hexagonale qui est indiquée ici. Et nous avons ensuite des villes de rang 2 qui se situent à chaque sommet de ce premier hexagone et qui présentent là aussi des aires de marché qui sont hexagonales. Et ainsi, on obtient une hiérarchie emboîtée de ces différents niveaux de villes. Pour prendre un petit peu de recul et conclure cette vidéo, on peut amener le concept de valeur associée à une ville. Ces différentes villes vont présenter des valeurs différentes, notamment une attractivité différente d'une ville à l'autre, mais surtout qui se distingue du reste du territoire. L'attractivité sera bien plus importante étant donné les densités que l'on observe dans les villes. La valeur monétaire, vous le savez bien, est bien plus importante en ce qui concerne les prix fonciers et les prix immobiliers dans les villes que dans les environnements proches des villes. Une accumulation également de capitaux, notamment, qui peut dépasser celle d'États ou de grandes entreprises, et une certaine adaptabilité ainsi qu'une certaine résilience. Pour ce qui est de la résilience, on observe aujourd'hui des villes qui sont apparues lors de l'Antiquité. Et donc, on a une grande récurrence des formes urbaines, une grande récurrence de ces implantations des villes. Cette vidéo a ainsi permis de montrer, je l'espère, le lien majeur que l'on peut établir entre système économique et les villes qui fondent les systèmes de villes.